Weekend, groupe de rock.
Willy vient déjeuner chez vous.
Allez, ouvrons notre nouveau dossier. Bonjour Nicolas Marquès.
Bonjour.
Bienvenue ici, vous êtes le directeur général de l'Institut économique Molinari. Alors déjà, est-ce que vous pouvez déjà nous dire, en quelques mots simples, parce que là vous êtes entouré de trois crétins, d'accord Nicolas? Donc vraiment, hein,
c'est bien,
vraiment.
Pas un mot.
Est-ce que vous pouvez déjà nous dire concrètement là, ce que ça a donné ce conclave sur les retraites voulu par François Bayrou? Parce que voilà, on a entendu, il y en a qui ont dit oui, ça a avancé un petit peu, d'autres qui ont dit ta sœur, elle balbeur, enfin ils n'ont pas dit ça comme ça, hein, mais voilà. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui s'est passé là?
Oui. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'était que le conclave?
Oui,
le conclave, c'était un format où les partenaires sociaux discutaient entre eux, sans gouvernement, c'est-à-dire sans interférence.
Voilà.
Et ça vient de se finir, ça a duré quatre mois. A duré de février à juin. Et là, on rentre dans une phase un peu traditionnelle où le gouvernement et le Parlement reviennent en première ligne. Alors, votre question, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose?
Oui, voilà, est-ce que ça a donné quelque chose? Oui, ah oui.
Oui, oui. Bon. Pour moi, ça a servi à quelque chose. Pourquoi? Parce que les partenaires sociaux ont discuté entre eux de façon très, très pragmatique. Ils ont discuté de tout ce qui était sur la table. Alors, il y avait le sujet de l'âge de départ à la retraite, notamment, qui était le sujet au cœur de la loi Borne de 2023. Avec, et on pensait tous qu'ils allaient se déchirer entre eux et qu'ils allaient tous dire « Non, non, il ne faut pas reculer l'âge à 64 ans ».
Ça, ils ont fait des compromis.
Oui, ils ont fait des compromis. Tous ceux qui restaient là, la CFDT, la CGC, la CFTC, avec le patronat, il y avait le MEDEF et la CPME, se sont dit ça, on n'y touche pas. Et ils ont fait des compromis pour d'autres choses. Par exemple, alors c'est un peu technique, mais pour diminuer l'âge de départ à la retraite à taux plein, au lieu de faire 67 ans, ils ont dit ben, on va se mettre d'accord pour être un peu plus généreux, ça sera 66 ans et demi. Ils ont eu plein d'idées pour améliorer sensiblement et immédiatement les retraites des femmes.
Et ça, c'est un point important.
Les femmes ayant eu des enfants.
Des enfants, voilà.
Ils se sont dit, les femmes, elles sont pénalisées parce qu'elles ont des enfants, donc elles ont des carrières moins attrayantes que les hommes. Donc au lieu de calculer leur retraite sur 25 ans, on va la calculer sur 24. Les 24 meilleures années ou les 23 meilleures années.
Bon, voilà. Déjà, donc il y a quand même eu des avancées. Oui. En revanche, je lisais que c'était le MEDEF qui traînait des pieds. Le MEDEF, c'est quoi? C'est les patrons? C'est les patrons, ils sont pas contents, les patrons, quoi.
En fait, ça a bloqué pour deux choses. Ça a bloqué pour le financement et la pénibilité. Parce que les avancées, elles coûtaient au global 1,5 milliard. Alors, il y a à peu près 1 milliard qui a été trouvé, et il restait à peu près 400 millions à trouver. Et là, il y avait un vrai débat. La personne qui animait le conclave, Jean-Jacques Marette, qui est un haut fonctionnaire, a dit bref, on pourrait par exemple augmenter le forfait social. Et alors ça, c'est un chiffon rouge pour les employeurs, parce que le forfait social, c'est une taxe qui est payée par les employeurs sur la prévoyance qu'ils financent pour leurs salariés. Ça veut dire que si on avait augmenté le forfait social de 2 points, comme c'était dit, tout ce qui est complément de retraite versé par les employeurs, tout ce qui est mutuel financé par les employeurs, ça aurait été plus coûteux ou moins intéressant parce qu'il aurait fallu diminuer les sommes. Alors là, les syndicats ont dit, on n'a qu'à faire différemment. On n'a qu'à mettre un objectif de taux d'emploi des seniors, et si c'est pas respecté, on réduira les allègements de charges. Et là encore, ils sont pas mis d'accord là-dessus. Et puis il y avait un deuxième volet sur lequel ils sont pas mis d'accord, c'est la pénibilité. Parce que la position des syndicats, c'est de dire, quand on exerce un métier pénible, on doit partir
un peu
automatiquement plus tôt à la retraite.
Voilà.
Et les patrons disent, oulala, d'abord on va faire la prévention pour avoir moins de problèmes avec des salariés usés, on va faire plus de formation, on va faire plus de reconversion, parce qu'il y a des métiers qui sont réellement difficiles et pénibles, et l'idée du patronat, c'est de dire qu'il ne faut pas les exercer toute une vie. Les patrons disent, bien sûr, on aura des départs anticipés pour pénibilité, mais ça ne sera pas un droit systématique, ça sera quelque chose après un examen médical. Donc voilà, ça c'est les deux points, financement et pénibilité. Ils ne sont pas mis d'accord.
Ils ne sont pas mis d'accord. Et donc là, le fait que François Bayrou ait repoussé de 3 semaines, vous pensez que ça peut... Il gagne du temps ou vraiment on est vraiment proche de quelque chose, à votre avis?
C'est malin parce que grosso modo, les organisations salariales, les organisations patronales, elles ont fait un énorme chemin. Et c'est pas bête de dire, de toute façon, on n'est pas pressé parce que la suite, c'est en parler à l'automne, avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat, dans le cadre du projet de loi de finances de sécurité sociale. Mais si d'ici là, les partenaires sociaux arrivaient à se mettre d'accord, pourquoi pas ?
D'accord. Alors vous, en revanche, Nicolas, vous êtes pour un système par capitalisation. Alors vous, c'est votre truc, ça, d'accord ? Alors, là, pareil, hein, toujours, vous êtes toujours devant les trois mêmes crétins, hein, d'accord ? Donc... Par capitalisation, ça veut dire quoi ? Parce que pour vous, c'est le meilleur système. Ça serait le meilleur système.
En fait, je pense qu'il faut compléter la répartition avec une dose de capitalisation pour tous. Pourquoi ? Quand vous êtes en répartition, vous prenez des cotisations que vous redistribuez automatiquement. Donc la répartition, elle déplace du pouvoir d'achat. Ouais. On prend aux actifs, on donne aux retraités. Elle ne crée aucun pouvoir d'achat. Ouais. Elle ne crée aucune richesse. Le billet passe de la poche d'un actif à un retraité. Quand vous êtes en capitalisation, on crée la richesse. Comment ça se passe ? Vous avez toujours une cotisation, elle est placée, et donc elle fait des petits, cette cotisation, elle vous rapporte un peu de dividendes, un peu de plus-value, et donc à la fin, vous avez plus de retraite. Quand vous voulez créer de l'argent pour les retraites, et quand vous manquez de l'argent, c'est ce qui est notre cas, hein, depuis la fin du baby-boom, c'est intelligent d'avoir une dose de capitalisation. Alors, et ça existe déjà.
Voilà, il y a certains pays qui le font, hein, c'est ça, hein ?
Oui, mais aussi, en France, on le fait
en
déjà.
En France, on le fait déjà. Okay. Ah oui, d'accord.
Parce que depuis 2005, on a un énorme fonds de pension qui s'appelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Tous les fonctionnaires, les 4,5 millions de fonctionnaires, ils cotisent tous les mois dans une capitalisation collective. Bon. Et donc, avec quelques amis, je me dis, ben voilà, on devrait faire
peut-être
exactement
que c'est ça qu'il faudrait
chose.
Faire. Bon,
mais les salariés du privé et dans le conclave, ça a été discuté. Ah. Vous avez des grosses avancées parce que jusqu'à présent, c'était tabou. Ça se faisait dans la fonction publique, mais dès qu'on disait on pourrait faire ça aussi dans le secteur privé, il y a des personnes qui vous disaient oui, mais est-ce que ça va fragiliser la répartition ou autre ? La secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, a dit qu'elle n'avait pas de tabou sur la retraite par capitalisation du moment que c'est organisé collectivement et que ça profite à tous. Bon, donc ça aussi, c'est une belle avancée du conclave.
Eh ben voilà, donc merci infiniment Nicolas, on a compris qu'il y avait eu des avancées, on n'est pas encore arrivé au bout, mais la suite au prochain épisode. En tout cas, Nicolas Marquez, bravo.
On a tout compris.
Car on a tout compris.
On est un peu moins crétins grâce à Nicolas.
Exactement, c'est une espèce de miracle qui vient de se produire, car on a tout compris. Merci infiniment Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut économique Molinari. Mes amis, on va parler de quoi avec toi dans un instant, mon Nicolas ?
Eh bien, je vais vous parler